Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Il y a des livres que l'on ouvre comme on ouvre une porte. On ouvre et on entre ailleurs. On se prend au jeu. J-E-U ou J-E, choisissez de l'écrire comme il vous plaira. Dans ce roman d'Antonio Moresco, on se laisse emporter par la voix intérieure du narrateur. On est immergé dans l'intimité de sa pensée. On est un peu étonné parfois, on ne comprend pas tout, mais c'est peut-être le gage de la sincérité. Après tout, une voix intime ne s'adresse à personne. Alors on la laisse aller, on essaie de suivre. On ne veut surtout rien freiner, rien déranger au fil de ses pensées. La petite lumière, c'est le titre de cette histoire désarmante d'étrangeté et de simplicité à la fois. Voici les premières lignes du roman. Je suis venue ici pour disparaître. Dans ce hameau abandonné et désert dont je suis le seul habitant. Le soleil vient tout juste de s'effacer derrière la ligne de crête. La lumière s'éteint. En ce moment, je suis assis à quelques mètres de ma petite maison, face à un abrupt végétal. Je regarde le monde, sur le point d'être englouti par l'obscurité. Le décor est posé. Un hameau abandonné, tout un monde de pierres enseveli par la végétation, un hameau perdu dans la forêt, avec des loups, des blaireaux, des guêpes, des crapauds, un chien errant aux pattes cassées. Voici la suite de notre histoire. Je reste encore un long moment, assis là. La lumière disparaît progressivement. Tout ce monde végétal devient de plus en plus sombre devant mes yeux. De tous côtés commencent à se lever les cris des animaux nocturnes, invisibles dans le feuillage noir. Pas un signe de vie humaine. Excepté quand l'obscurité se fait encore plus épaisse et que les premières étoiles commencent à paraître, de l'autre côté de cette étroite gorge abrupte, sur une partie plus plane de la ligne de crête, incurvée au milieu des bois comme une selle. Chaque nuit, toujours à la même heure, cette petite lumière qui s'allume au loin. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette petite lumière? Qui peut bien l'allumer? Où sommes-nous? Quelle est cette terre de montagne recouverte de forêts où les orages sont violents, où la terre gronde, souvent secouée par des tremblements de terre? En quelle année sommes-nous? On croise bien dans le village voisin de pauvres bougres, rustres et solitaires. L'épicière, vulgaire et sale, un vieux militaire qui envoie ses chiens hargneux pour n'être pas dérangé, un berger, un troupeau de chèvres. On pourrait très bien être au Moyen-Âge, ou au temps des contes de fées. On devine vaguement que c'est notre monde pourtant, parce que le narrateur a une voiture, parce que des avions rayent le ciel. parce qu'il y a un ordinateur sous une couverture dans l'étable du berger. Pourtant, on a vraiment l'impression d'être dans un monde sans âge. Pourquoi cet homme est-il là? Qu'est-il venu faire dans ce hameau perdu? Nous avons bien peu d'indices. Il ne parle jamais de son passé, ni de son futur. Il semble n'avoir pas d'autre projet que rester là, vivre au jour le jour, observer les choses autour de lui. L'introspection est totale. Nous suivons simplement le fil de ses pensées, son présent, ses préoccupations, ses initiatives, au jour le jour. Il y a tout ce sous-bois féroce et ces mille et mille formes végétales qui s'entrelacent et se combattent déjà sous la ligne de terre, dans les mille et mille radicelles et dans les mille autres formes pressées par leur turgescence chimique et encore sans forme qui jaillissent de la terre comme des armées avec leurs corps nus, encore dépourvus d'écorce, et qui s'inventent leur première machine à respirer et à échanger avec l'atmosphère, et commencent à grimper en un furieux enchevêtrement muet de formes, nées de graines portées par le vent ou par d'autres bombes qui pullulent dans le ventre pourri du monde et qui entament leur lutte pour grimper vers le haut, vers la lumière.
I got idea, man. You take me for a walk under the sycamore tree.
Cette phrase n'a pas de ponctuation. On a l'impression d'être pris dans ce tourbillon de racines qui pulsent dans leur sève toute neuve, se propulsent, poussent, se poussent et s'entremêlent, écrasent, étouffent tout ce qui leur fait obstacle pour se faire une place, pour atteindre la lumière. Ne sentons pas dans cette lecture un niveau symbolique. On est sans cesse en proie à des questions intimes, des perplexités, des réflexions qui inévitablement nous font basculer vers le mystère métaphysique du vivant. C'est comme si le narrateur, à partir de sensations minuscules, à partir de l'observation des plus petites choses, prend peu à peu de la distance, varie les échelles sur la ligne du temps, et finalement met l'état du monde qu'il vit en perspective avec le vivant en général. Le vivant, depuis que le monde est monde connu. Le vivant, la façon dont il s'est formé, et aussi l'évolution dans laquelle il se trouve pris. Au cœur de toute cette réflexion sur le vivant, il y a la lumière. Voici comment le narrateur trace sa chronologie, c'est-à-dire mot à mot logique temporelle. Tous continuent à mourir et à renaître et à mourir à nouveau. Toutes choses dans le même cercle de la douleur créée. Leurs cellules végétales continuent à lutter désespérément et à se reproduire et à se dupliquer en silence. Et c'est ce qu'elles continueront à faire, une fois que les hommes ne seront plus là, qu'ils auront disparu de la face de cette petite planète perdue dans les galaxies. Il ne restera plus que ce tourment de cellules qui luttent et se reproduisent tant qu'arrivera encore un peu de lumière de notre petite étoile. Tous continueront à casser et à disjoindre encore plus les murs entre les pierres desquelles les petites racines se sont accrochées sur le sol, sur les plafonds. Ils jailliront en passant à travers les ouvertures des fenêtres enfoncées. Ils briseront les rares vitres encore intactes de leur douce et irrésistible pression végétale. Ils rongeront les maisons, les routes, les autoroutes qu'il y a loin d'ici, quelque part dans le monde. Les grandes villes désertes, pleines de gratte-ciel et de tours, ils enfonceront les vitres et les fenêtres, les rideaux de fer des garages, ils feront exploser en silence les tuyauteries, les bouches d'égout, sous leur tourment végétal et leur pression muette. Les carrosseries des voitures, les pompes à essence, les centres commerciaux tout en verre aux abords des métropoles.
I don't want to set the world on fire. I just want to.
Au-delà de ces réflexions, notre héros poursuit sa quête. Connaître et comprendre pourquoi une petite lumière s'allume de l'autre côté de la vallée. Alors évidemment, je préfère garder le suspense intact. Je peux cependant vous parler de la façon astucieuse dont Antonio Moresco construit le roman, abordant subtilement autour de la notion de lumière les problématiques de la vie, de la mort, de la réalité de nos perceptions. Comment savoir si au-dessus du ciel, il y a un autre ciel ? Comment savoir si la matière dont se compose l'univers, tout au moins le peu qu'on réussit à percevoir dans l'océan de la matière, n'est pas à l'intérieur d'une autre matière, infiniment plus grande ? Comment savoir pourquoi ça s'est arrangé comme ça dans ce monde ? Est-ce que c'est comme ça partout, s'il y a un partout ? Dans ce déchaînement de petites lumières qui percent le noir dans la nuit froide et dans l'obscurité la plus profonde. Qu'est-ce que le réel en dehors de la lumière ? Et les étoiles, ce déchaînement de petites lumières perçant le noir, selon l'expression de l'auteur, quelle est leur réalité ? Toutes ces questions métaphysiques, notre narrateur se les pose toujours à partir de son simple vécu quotidien, en toute simplicité, en toute innocence. Ce décalage donne d'autant plus de force à ses réflexions. Par exemple, il parle aux arbres et aux animaux. Il parle aux blaireaux, aux guêpes, aux crapauds. Seules les hirondelles répondent au narrateur. Et leur réponse est souvent drôlatique. Écoutez. Mais vous êtes folle ! Oui, oui, on est folle ! Elles me répondent, ces bestioles survoltées, sans arrêter de frôler le sol de la ruelle et le fil de l'eau, comme des flèches en trissant. D'émotion, j'en ris seul. Il n'y a pas de psychiatre pour les hirondelles ? Si, si, mais il est fou, lui aussi. Antonio Moresco parvient à nous faire admettre que dialoguer avec des hirondelles est moins étonnant que sentir monter leur agitation malgré elles lorsqu'elles s'apprêtent à partir pour leur migration annuelle. Autrement dit, les plus grands mystères résident dans les choses les plus connues, les plus habituelles, les plus naturelles en somme. La migration est un grand mystère, comme celui de la lumière qui clignote dans l'abdomen des lucioles. La photosynthèse est aussi un grand mystère. La chimie qui donne la vie, l'impulsion électrique qui donne la pensée. A contrario, un chien aux quatre pattes cassées, des tremblements de terre incessants et toute une myriade de faits étranges que je ne détaillerai pas ici pour ne pas trop en dire, eh bien, tout ce qui pourrait entrer dans le registre du mystérieux ou du merveilleux est traité comme parfaitement banal. Face à ce qui est manifestement surnaturel ou étonnant pour nous, le narrateur ne s'attarde pas. Qui sait ce qui se passe au sein de ces nuées de petits corps en vol? Quelle est l'étincelle qui a donné naissance à tout ça? Comment se créent les premières agrégations, là-haut, dans l'espace, durant les premiers vols toujours plus fournis, qui commencent à tournoyer sur ces ruines désertes qu'elles sont sur le point d'abandonner, sans peut-être qu'elles le sachent encore elles-mêmes? On s'interroge beaucoup sur cet homme. Il vit au jour le jour, sans passé, sans perspective. Il ne dit rien de ce qu'il fait là, de ce qu'il est venu y faire. On ne connaît de lui que sa quête, sa volonté d'élucider le mystère de la petite lumière. C'est un grand contemplatif. Il observe chaque détail. L'écriture est minutieuse, à l'image de cet homme qui prend son temps, qui vit posément ses jours, comme pourrait le faire un grand convalescent, ou peut-être comme un ermite. Il est seul. C'est pour cela qu'il parle aux arbres et aux animaux. On peut devenir un peu fou à force d'être seul, n'est-ce pas? En cela, l'écriture d'Antonio Moresco bascule parfois dans le registre du merveilleux. Et en même temps, il frôle l'essai philosophique de haut vol. La vie, la mort, le rêve. Où donc est-il? Et nous, lecteurs, où est-on? À présent, il fait nuit. J'ai les yeux ouverts dans le noir, je crois. Mais je ne saurais dire si je suis éveillée ou endormie. Peu avant, il y a eu des secousses de tremblements de terre, mais faibles. Des vibrations légères qui montaient des profondeurs. Mais si légères, que je ne saurais dire si elles m'ont réveillée ou si au contraire elles m'ont endormie. Il m'a même semblé avoir un peu souri, reconnaissant leur chère voix dans le noir. Nous ne comprenons le sens de toute cette quête qu'une fois le roman terminé. Nous prenons alors la mesure de tous les éléments minuscules que nous avons laissés effiler. Tout prend sens à la fin. Nous sommes pris alors d'un grand désir de tout relire. Oh, ce n'est pas grand-chose, le roman est court. Et là, cher lecteur, je peux vous dire que le moment le plus délicieux, c'est celui de la relecture. Tout le talent d'écrivain d'Antonio Moresco nous apparaît alors. Sous son apparence simple, avec son langage simple, presque parlé par moments, ce livre est un ouvrage de grande subtilité, où tout se fait écho, où se touchent le mystère et l'évidence dans la plus grande ingénuité. Vous souhaitez aller plus loin dans l'univers d'Antonio Moresco ou tout simplement flâner avec moi autour de ce qu'il a évoqué ou éveillé? Je vous donne rendez-vous sur la page de notre site consacrée à ce podcast. Le nom du site, Tout avec presque rien. C'est aussi le nom de notre chaîne YouTube où vous retrouverez nos trois séries de podcasts littéraires et puis, ici et là, des lectures que Marie et moi nous sommes amusés à mettre en images. Si vous aimez nos créations et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, laissez des j'aime et des commentaires sur les réseaux. À bientôt.